Alors aujourd'hui, nous allons voir, puisque nous avons une présentation, un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce Dieu qu'on peut appeler notre Père. On verra, voilà, quatre points. Premier, c'est Dieu un Père. Comment il est devenu un Père? Quel Père est-il? Et puis Dieu notre Père. Je crois que, et je suis sûr que le vœu le plus cher de tout parent, c'est d'éduquer les enfants de la meilleure manière possible. Et des parents chrétiens, c'est d'éduquer l'enfant dans la foi, l'amener à reconnaître non seulement l'existence de Dieu, mais aussi l'autorité de Dieu qui donne la vie éternelle par Jésus-Christ. Le vœu le plus cher de tout parent, c'est de transmettre les valeurs de la Bible avec cette notion que Dieu est un être digne de confiance et qu'il recherche notre bonheur. Afin qu'un jour, un enfant, en âge de prendre des décisions, à son tour, puisse aimer, suivre et servir Dieu. Je crois que c'est le désir de tout parent, non? Et aussi le désir de Andy et Marie pour Simon. Je me souviens de mon professeur de Nouveau Testament grec qui nous disait: ratez votre année universitaire s'il le faut, mais ne ratez pas votre relation avec Dieu. Voilà, Simon, c'est pas une raison pour fournir aucun effort à l'école, hein? Oui, parce que c'est important, hein, cette relation avec Dieu. Éduquer l'enfant, quelle grande et noble tâche. Mais par où allons-nous commencer? Sur quel aspect de Dieu faut-il se concentrer? Comment présenter Dieu? Et je bénis Dieu de toutes les ressources qui existent. Maintenant, faut pas tous les lire parce que quand vous aurez fini de tous les lire, l'enfant aura déjà 18 ans. Hein? Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un intérêt pour cette instruction concernant l'enfant. Et en nous penchant sur l'enseignement de Jésus, nous voyons qu'il avait ce souci de faire découvrir à ses disciples ce Dieu en tant que Père. Quand ils abordent la question de la prière, Jésus dit, voici comment vous devez prier Dieu, comment le considérer, comment vous devez vous adresser à lui. Et les deux premiers mots sont notre Père. Dieu un Père, oui. La réponse de Jésus est une véritable révolution sur la personne de Dieu, qu'auparavant, ni les Juifs eux-mêmes, ni les païens auraient pu imaginer la profondeur et la portée de cette révélation. Pour le peuple d'Israël, nul n'ignorait le caractère inapprochable de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher, nous toucher, n'est-ce pas? Et pourtant, ce Dieu se révèle être le Père de ce peuple. Déjà, Moïse avait ce message de la part de Dieu à Pharaon. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils et mon premier-né. Donc, une relation de filiation, de paternité. Ésaïe 63, le prophète s'exprime, c'est toi cependant qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus, c'est toi, Éternel, qui es notre Père. Ésaïe, un peu plus loin, dira, cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi notre potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'était déjà pas mal d'avoir compris cette filiation d'un peuple avec son Dieu. Il ne vivait pas de cette manière, mais c'était clair. Et cependant, Jésus, dans le Nouveau Testament, nous offre une plus grande proximité. En réalité, Jésus va encore plus loin. Où va-t-il? Eh bien, il nous présente Dieu comme Père, non pas d'un peuple, mais comme le Père de chaque croyant. Un Père si intime, si proche, que l'on peut tutoyer. Tu tutoies le président de la République si tu le vois? Hein? Voilà, les étrangers le tutoient parce qu'ils ne savent pas trop manier le tu et le vous, hein? Mais on ne tutoie pas les gens haut placés. Quel privilège que le nôtre de pouvoir tutoyer Dieu. Un père si intime, si proche. Je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas, mes frères et sœurs, si nous réalisons bien la profondeur de ces deux petits mots. Notre Père, employé par Jésus. Et comment Dieu est-il devenu Père? Eh bien, en disant que Dieu est notre Père, Jésus ne parle pas le langage des humanistes. Vous savez, nous sommes tous frères et nous avons un Père qui est notre Créateur. Hein? C'est la raison pour laquelle il ne va pas hésiter quand il parle aux responsables religieux de son époque, qui ne vivaient pas une vie en rapport avec l'appel de Dieu. Eh bien, Jésus ne va pas hésiter à leur dire « Vous avez pour Père le diable !» Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Mais comment Dieu est-il devenu notre père? La réponse est simple. En faisant de nous ses enfants. Jésus apparaît dans le prologue de Jean, le premier chapitre, sous le terme de la parole et de la lumière. Et quand on lit Jean, eh bien, on voit que Jésus était dans le monde et que le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, en Palestine, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais, dit Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. En d'autres termes, nous qui n'avons joué aucun rôle dans notre naissance, sauf qu'il fallait sortir de là, hein, naturellement, hein, eh bien, de la même manière, nous ne pouvons pas jouer un rôle en disant « Je suis Seigneur, je me déclare enfant de Dieu » si Dieu ne l'a pas voulu. Autrement dit, c'est Dieu qui a voulu que l'homme devienne son enfant. C'est lui qui a accompli ce miracle. Lui qui se présente comme un père à celui ou celle qui comprend et qui reconnaît la mort de Jésus à la croix pour nos péchés et sa résurrection. Et de cette résurrection, la vie va jaillir. Le Nouveau Testament parle également d'une nouvelle naissance. Nous naissons à une vie nouvelle. Ainsi, nous devenons les enfants de Dieu. C'est la décision la plus importante de toute une vie, le sujet de prière qui accompagne chaque parent chrétien pour ses enfants, cette décision de s'approcher de Dieu et de le recevoir comme Père. Dans Hébreux, il est dit que Jésus est venu sur terre. Hein, quelque temps, il s'est placé en dessous des anges et il est écrit, « En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe, avait pour projet d'adopter beaucoup d'hommes et de femmes hein, comme ses enfants et de leur partager sa gloire. » C'est par Jésus que nous devenons enfants de Dieu. Un peu comme si le sang de la croix, en venant laver nos péchés, eh bien ce sang venait à couler dans nos veines et on peut dire devant Dieu que nous sommes du même sang. D'ailleurs, il y a une histoire qui est intéressante dans l'évangile de Matthieu. Lorsque les foules étaient autour de Jésus, on voit sa mère et ses frères qui s'approchent, qui essayent d'entrer, qui se tiennent dehors et qui cherchent à lui parler. Et on lui dit, Jésus, ta mère et tes frères sont là. Que répond Jésus? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et puis il étendit la main, j'aime beaucoup ce geste, sur ses disciples, en disant, voici ma mère, voici mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. On pense souvent de Jésus en termes de Seigneur et de Sauveur, mais en termes de frère. Oui, il est notre frère. D'ailleurs, au matin de la résurrection, il dit aux femmes qui étaient là, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire, dit-il à Marie-Madeleine, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est donc au niveau de l'âme que le Saint-Esprit va créer une image de Dieu en tant que Père. Un langage qu'il nous faut considérer, et nous pouvons, quand nous sommes enfants de Dieu, appeler Dieu Papa. Quelle joie, n'est-ce pas? Quelle joie quand les parents entendent pour la première fois « Papa hein, » ou « Maman hein. ». Ça reste, voilà, si c'est filmé, ça reste un bon souvenir. Hein. Alors ça, c'est merveilleux parce que c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit en nous. Il crée en nous eh bien, cette conviction que je peux appeler Dieu Papa. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et Romains 8, Paul ajoute « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais quel père est-il? Eh bien, le mot père n'évoque pas forcément un bon souvenir pour chacun. Ces pères charnels peuvent être cruels, sans affection, durs, violents parfois. Malheureusement, dans certaines situations, il arrive même que les enfants veulent oublier le souvenir de leur père. Vous savez, Martin Luther, réformateur, a eu beaucoup de mal avec cette notion de père concernant Dieu, parce que son propre père, donc, de chair, était un homme particulièrement méchant. Et donc, il a dû se laisser travailler par Dieu pour considérer Dieu comme son père. Alors, comment est-il ce père? Dieu est un père qui est pur. Il est fidèle, il ne change pas, il est doux, il est fort, il est attentionné. C'est un père accessible. Il est aimant, c'est un Dieu qui est bon. Il n'hésite pas à nous corriger, comme le dit l'Épître aux Hébreux, à nous reprendre sévèrement s'il le faut, comme un père le fait. Et ce qui est surprenant, c'est que ce Dieu devient un père aussi bienveillant. Alors, Jésus a, j'allais dire, cloué ses auditeurs en leur disant « Vous donc qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ? » Est-ce que Dieu va nous donner tout ce que nous voulons ? Ah, ce serait nous rendre capricieux, hein ? Un enfant qui désire tout ce qu'il a, eh bien, finit par être capricieux et manque de reconnaissance. Comme nous savons accorder à nos enfants ce qui est bon, eh bien Dieu va nous accorder ce qui est bon. D'ailleurs, on l'a chanté. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Il connaît tes besoins et ta peur du lendemain. Alors que fait Dieu? Eh bien, comme nous avec nos enfants, eh bien nous leur donnons des bonnes choses, même s'ils ne comprennent pas toujours, mais nous savons que c'est bon pour eux. On dit que Dieu et notre Père avec un cœur de mère, et c'est vrai. Notre Père qui nous a donné, notre Père qui donne et qui nous donnera toujours ce qui est nécessaire pour notre bien et pour la gloire de son nom. C'était Charles Spurgeon qui disait « Si Dieu n'avait pas l'intention de nous écouter, il ne nous dirait pas de prier. » Alors, vous avez tout, dit Paul, pleinement. Tout pleinement en lui. Dans nos chagrins, son épaule sera là sur laquelle nous pourrons nous appuyer. Dans nos épreuves, ses bras seront là pour nous porter. Dans nos faiblesses, ses mains seront là. Dans nos ténèbres, ses yeux seront là pour nous guider. Dans nos brouillards, ses pas seront là pour nous conduire sur un chemin sûr. Donc Dieu n'est plus un Dieu père fouettard qui attend, voilà, un mauvais pas de notre part pour nous tomber dessus. Dieu n'est pas un père absent qui nous laisse dans nos épreuves et dans notre vie. Dieu n'est pas dépassé par le chaos de ce monde. Il est père. Et plus encore, il est notre père. Quel privilège de savoir qu'il nous appartient. Nous sommes ses enfants. Il est notre père. Et Dieu qui est ce grand Dieu, qui s'est montré comme un adversaire redoutable contre Pharaon, qui s'est montré comme le Dieu de l'armée d'Israël, hein, qui s'est montré comme ce Dieu dominant sur toute chose, eh bien, ce Dieu se montre à nous comme un Père. Alors, Jésus n'a pas enseigné en disant, quand vous priez, dites « Père », même si c'est bien de dire « Père ». Mais il a dit exactement, ce que vous direz, c'est « Notre Père ». En fait, il n'est pas qu'à moi. On aimerait bien l'avoir qu'à soi, hein? Ah, mais il n'est pas qu'à moi. Il est à chacun de ses enfants. Cela indique la notion du groupe. Hein? Bien sûr, on peut dire père à Dieu, hein, en tant qu'enfant. Hein? Chacun peut le dire. Mais Jésus va mettre volontairement l'accent sur le notre Père. Quand on dit à Jésus, voilà, ta mère et tes frères et sœurs sont là, il lui dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ça veut dire que nous sommes plusieurs à être ses enfants. Il y a un Dieu, il y a aussi des frères et des sœurs, ne l'oublions pas. Jésus montre que sa famille est constituée d'une multitude. Tout à l'heure, on a entendu, hein, nous sommes tous différents. Chacun avec sa diversité, et ceux qui cherchent à vivre comme Dieu le demande appartiennent à cette famille. Rappelez-vous du problème du fils prodigue. Le fils prodigue pensait qu'à l'argent que son père avait, il n'a considéré ni son frère aîné, ni son père. Le fils aîné pensait à la reconnaissance qu'il pouvait avoir pour tout le travail qu'il a fait. Il ne pensait ni à son frère, à son jeune frère, ni à son père. En réalité, le fils prodigue et le fils aîné ne voulaient ni du père, ni du frère. Mais la vie spirituelle est tout autre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir Dieu comme père sans avoir les frères et sœurs. On ne peut pas aimer Dieu seul sans aimer nos frères et sœurs. Le problème, c'est que ces deux frères qui étaient là, eh bien, étaient trop centrés sur ce qu'ils désiraient, sur leur propre vie, à tel point qu'ils sont devenus insensibles aux besoins de l'autre et au cœur du Père. La famille spirituelle est un lieu où nous apprenons à vivre, à nous connaître les uns les autres, à nous intéresser aux besoins des frères et sœurs. Et vous savez ce qu'il y a de beau quand on s'intéresse aux besoins des frères et sœurs, hein? Eh bien, c'est un excellent remède pour parfois relativiser nos tracas qui prennent trop de place. C'est une oxygénation du cerveau. La famille spirituelle est un lieu de partage. Le sens où le sens du partage est là. Un lieu où on prend du temps ensemble. Un lieu où nous pouvons, bien sûr, partager, prier et échanger. Comme nous avons prié quand les uns et les autres sont passés et passent par des difficultés. Le petit Simon s'est déjà fait remarquer avec son hospitalisation. Hein. Et les parents disaient merci pour toutes ces prières qui sont montées pour lui et pour eux. Comme nous nous sommes réjouis lorsque les bonnes choses arrivent à nos frères et sœurs. Hein. Comme nous nous réjouissons aujourd'hui de ce temps. Dans le Nouveau Testament, l'expression « les uns et les autres » reviennent environ 20 fois dans les Épîtres. Alors ces deux mots, « notre Père », eh bien, ont suffi à nous approcher de Dieu et exprimer l'amour qu'il a pour nous et la confiance dont il est digne. Mais Jésus dit, « notre Père qui est, où est-il ce Père ?» Il est dans les cieux, hein. Nous habitons une terre qui est encore dominée par le péché, malheureusement, et par le mal. Nous le voyons tous les jours. Mais nous ne pouvons pas déclarer, mais nous pouvons déclarer pour nous, parce que Jésus l'a déclaré qu'il y a un ciel. Il y a un séjour de gloire. Il y a une maison paternelle. Nous sommes faits pour le ciel. En attendant, n'hésitons pas à invoquer notre Père. Et comme disait le pasteur Huntinger, ce sera ma conclusion, il disait ceci, voici deux simples mots que Jésus a employés. Notre Père. Ces deux mots sont un appel et déjà une réponse. Ces deux mots sont une confession de foi et d'expérience. Ces deux mots sont un cri d'espérance qui triomphe de la faiblesse du monde et du malin. Ces deux mots sont un chant d'adoration dont nous aurons à apprendre les autres strophes infinies durant l'éternité. Que notre Père vous bénisse. Et que notre Père bénisse particulièrement les jeunes parents, à qui nous souhaitons à chaque jeune parent d'être un papa et une maman, des parents selon le cœur de Dieu, et qu'il vous accorde aussi la force et l'amour d'être des parents qui allaient enseigner à votre descendance que l'on peut appeler Dieu notre Père. Amen.